d'ailleurs. Jean-Pierre Bouris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Nous nous intéressons aujourd'hui à un petit morceau de papier, 15 cm de long, 6 de large, composé à 75% de coton et à 25% de lin, et qui a une durée de vie moyenne de 18 à 22 mois. Ce petit morceau de papier, ne cherchez pas plus longtemps, c'est le billet d'$1, un billet qui peut faire rêver, qui n'a pas envie d'en avoir plein les poches, ou un billet qui peut obséder. Combien vaut-il, se demandent en permanence particuliers et chefs d'entreprise, banquiers privés ou centraux, et tous les ministres de l'économie de la planète. En clair, un billet qui est au centre des affaires du monde et depuis longtemps. Alors, pourquoi le dollar est-il si important? Pourquoi est-il le roi dollar? Pour répondre à cette question, trois invités dans ce studio que je vous présente tout de suite. Bonjour Michel Aglietta.
Bonjour.
Vous êtes conseiller scientifique au CEPI, le Centre d'études et de prospective internationale. Vous venez de publier avec Virginie Coudert aux éditions La Découverte, dans la collection Repères, un petit livre intitulé « Le dollar et le système international ». Le système monétaire international, le dollar, c'est d'abord, historiquement parlant, une histoire américaine.
Oui, c'est une histoire américaine, mais qui a été très, très difficile à mettre en place. Hein. C'est-à-dire qu'avant la Deuxième Guerre mondiale, le dollar était pas du tout une monnaie importante, parce que les États-Unis n'ont pas eu de banque centrale avant 1913. Donc, ils n'avaient pas de politique véritablement à l'égard des relations internationales pendant l'entre-deux-guerres.
Nous reviendrons sur tous ces développements historiques. Avec nous également Louis Miotti. Bonjour Louis Miotti.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris 13. Vous êtes argentin. Le dollar, c'est d'abord une histoire américaine, mais quand on est argentin, on sait que ça ne concerne pas seulement les États-Unis, le dollar, n'est-ce pas?
Bien sûr que non. L'Amérique latine, c'est... Disons que si on caractérise son positionnement monétaire, c'est une espèce de zone dollar.
Hein? Donc, c'est-à-dire une zone dollar?
Une zone dollar dans le sens que pour des raisons de spécialisation productive en matières premières qui forcément sont, les prix sont fixés en dollars, et par l'importance des États-Unis dans la zone, les rapports avec les dollars est beaucoup plus fort qu'ailleurs.
Dans ce studio également, le financier Pierre Schoeffler. Bonjour Pierre Schoeffler.
Bonjour.
Vous avez longtemps travaillé au Crédit Commercial de France, puis vous avez dirigé la succursale parisienne d'une banque suédoise avant de créer votre propre société de conseil en investissement. Le niveau du dollar, est-ce qu'on peut dire que vous le surveillez comme le lait sur le feu?
Bien entendu, c'est une des variables clés de l'ensemble de l'explication des marchés financiers aujourd'hui. Malheureusement, c'est une variable qui est assez manipulée. En particulier, le dollar a une valeur vis-à-vis de l'euro ou vis-à-vis du yen, mais cette valeur, ce n'est que le reflet de taux d'intérêt sur le dollar et sur le yen qui aujourd'hui sont profondément manipulés. La question est de savoir est-ce que le dollar est débasé de sa valeur réelle ou non.
Alors nous reviendrons là-dessus bien évidemment. Dans cette émission, nous entendrons également un homme d'affaires, le négociant Armand Ezerzer, nous dire le rôle qu'occupe le dollar dans sa vie professionnelle. Nous irons à Kinshasa en RDC, où le dollar domine l'économie, et puis au Venezuela, où le billet vert est de toutes les transactions. Michel Aglietta, quelle est l'importance exacte du dollar dans l'économie mondiale aujourd'hui?
Alors, ça dépend des fonctions, puisque la monnaie a plusieurs fonctions. Si on regarde la fonction des transactions internationales, et par conséquent son rôle de moyen d'échange, de moyen de paiement, c'est 75 à 80%. Si on regarde la fonction de réserve de valeur, c'est-à-dire qu'on garde de la monnaie en pensant au futur, hein, pour des dépenses futures. Si on regarde ce que les gouvernements étrangers détiennent en dollars en proportion de la totalité de la monnaie internationale qui est détenue par tous les pays, c'est plus de 60%, hein, entre 60 et 65%. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est très stable, ça évolue peu.
Pourquoi?
Eh ben c'est l'importance du problème, c'est-à-dire il faut comprendre ce que c'est profondément la monnaie pour voir ça. La monnaie c'est un bien public. C'est-à-dire que elle n'est forte que parce que moi je pense que je vais pouvoir m'en servir parce que les autres la veulent aussi. Et donc, il y a toujours polarisation de la liquidité sur quelque chose de dominant. Au niveau national, il n'y a pas de problème, puisque la monnaie dominante, celle que tout le monde a, c'est celle que l'État, par sa souveraineté, décide, vous devez l'accepter. Au niveau international, il n'y en a pas. Et la question qui s'est passée, c'est ça, c'est depuis toujours, polarisation sur une monnaie qui va prendre ces fonctions-là et les autres vont rester des monnaies secondaires. Le dollar, depuis la Deuxième Guerre mondiale, du fait de l'écrasante prépondérance politique et militaire américaine, a été institué comme monnaie dominante à Bretton Woods, hein, en 1944.
Bretton Woods, c'est quoi?
Et donc, c'est une conférence internationale qui a organisé l'ordre d'après-guerre, hein, l'ordre monétaire qui était lié à l'hypothèse de libre-échange. On voulait retourner au libre-échange pour éviter les catastrophes de l'entre-deux-guerres. Et le dollar, par évidence à ce moment-là, a été la monnaie centrale autour duquel les autres ont été organisés, comme le soleil et des planètes, si vous voulez. Mais le Bretton Woods a disparu. À partir de 1971, il a disparu. En 1976, le Fonds monétaire international, qui est l'institution créée à Bretton Woods, l'institution théoriquement commune, du monde, a décrété, si vous voulez, enfin, les pays ont décrété que finalement chaque pays pouvait faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire déclarer des changes flottants, flexibles, pas comme il voulait. Mais le dollar est resté parce qu'on a besoin de cette forme de liquidité ultime. Il est resté dominant malgré la possibilité d'utiliser n'importe quelle monnaie. Et c'est là le paradoxe, évidemment, de la monnaie.
Pierre Schoeffler, le roi dollar est resté central à cause de quoi ? Les raisons qu'invoque Michel Aglietta sont celles que vous validez aussi?
Bien évidemment, le commerce international, les besoins de liquidité pour le commerce international, c'est la raison fondamentale. Mais je voudrais revenir quand même sur justement cet étalon qui est fondamental justement pour faire fonctionner l'économie mondiale. La valeur d'une monnaie s'exprime de deux façons. Elle s'exprime par un taux de change vis-à-vis d'autres monnaies, on mesure par rapport à quelque chose d'autre, et elle s'exprime par un taux d'intérêt. Les deux sont liés. Or aujourd'hui, les taux d'intérêt sur, en particulier l'euro, mais sur le dollar aussi, les taux d'intérêt sont profondément manipulés par les banques centrales. Ce ne sont pas des taux d'intérêt librement fixés par un marché. Donc il en ressort naturellement que la valeur du dollar vis-à-vis de l'ensemble des autres monnaies est aujourd'hui profondément manipulée.
Louis Miotti, quand on est une banque ou une entreprise, ici en France ou ailleurs dans le monde, on est obligé d'avoir du dollar dans ses caisses ?
Ah, là, c'est la réponse n'est pas si évidente, parce que lorsqu'on parle de la macro, on est obligé d'avoir des dollars.
Macroéconomie.
Lorsqu'on parle de la micro, pas nécessairement, parce que tout dépend. On peut arbitrer sur les taux de change, on peut arbitrer sur avec qui on commerce, quelle est notre monnaie de référence nationale, etc. C'est pas la même chose si on est un Équatorien, ou un Vénézuélien, ou un Français. Quelle est la référence et quelle est la capacité à se couvrir des différences d'échange, non?
Alors, le dollar, monnaie dominante, tout le monde ne s'en accommode pas et ça ne date pas d'hier. Au mois de septembre 1964, il y a 50 ans de retour de l'Assemblée Générale du FMI qui s'était alors tenue à Tokyo, le ministre des Finances français de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, dénonçait déjà le poids du dollar dans l'économie mondiale. On l'écoute.
Nous avons actuellement un système qui en réalité résulte de l'après-guerre et des circonstances de la reconstruction et qui certainement ne tient pas compte des nécessités actuelles de l'équilibre et de la stabilité monétaire dans le monde. Le système actuel repose en partie sur l'or et en partie sur ce qu'on appelle les monnaies de réserve, c'est-à-dire essentiellement le dollar. Or, il est évident que l'économie mondiale peut avoir des besoins de ressources, de liquidités, de moyens de paiement qui sont différents de la quantité de dollars qui, à un moment donné, peut être offert ou ne pas être offert par le déficit de la balance des paiements des États-Unis. Il faut donc pouvoir, éventuellement, si cela est nécessaire, ajouter alors un élément de réserve qui serait détenu par les banques centrales. Ce n'est donc pas une monnaie au sens familier du terme, c'est-à-dire que ce n'est pas une monnaie qu'on mettra dans sa poche, mais c'est un moyen de crédit qui serait détenu par les banques centrales et qui serait le gage international de l'émission de la monnaie.
À Tokyo, Valéry Giscard d'Estaing avait même utilisé une formule qui est restée dans les annales. Il avait évoqué, je cite, le privilège exorbitant dont bénéficiait le dollar. Que dénonçait alors exactement le ministre Giscard d'Estaing, Michel Aglietta?
Alors, il dénonçait quelque chose qui a été exprimé de manière rigoureuse par un économiste belge qui s'appelait Triffin, et ce qu'on a appelé le dilemme Triffin. C'est le fait que, puisque tout le monde finit par avoir besoin d'accepter cette monnaie ultime, comme je le disais tout à l'heure, il en découle que l'émission de la monnaie par la Banque Centrale Américaine dépend exclusivement des intérêts américains, c'est-à-dire de la politique qui est menée en fonction de la régulation de l'économie américaine pour qu'elle obtienne le plein emploi. Et en effet, les besoins de demande de dollars pour les transactions internationales ne sont pas automatiquement liés aux besoins de dollars américains pour sa politique interne. Et donc cette déconnexion entraîne l'existence de trop ou de trop peu de dollars. Mais vous voyez que c'est pas quelque chose qui est une fatalité, parce que la livre sterling était dominante au 19e siècle. Mais elle l'était dans le cadre de l'étalon or. C'est-à-dire que l'émetteur de livre sterling, c'est-à-dire la Banque d'Angleterre, était lié à une contrainte de cohérence globale qui faisait que sa propre émission de sterling avait un rapport avec les besoins de liquidité du monde entier. Mais dans le cas de ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale, où l'or a perdu son rôle en vérité, hein, de fait, même s'il n'était pas encore formellement jusqu'à la fin de Bretton Woods de 1971, eh bien, ce lien a été coupé, et par conséquent, le dysfonctionnement entre l'offre de dollars et le besoin de demande par les non-résidents, les non-américains, est resté permanent.
Alors, l'emprise du dollar sur l'économie mondiale, on peut la mesurer. Est-ce qu'il se passe dans les rues de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo? Là, le dollar est vraiment roi. C'est un reportage de Léa Lisa Westerhoff, la correspondante de RFI à Kinshasa.
Vous avez des euros? Vous avez des dollars?
Vous voulez des dollars? Vous avez des dollars? Voici les premiers mots qui vous accueillent si vous arrivez de Brazzaville par le fleuve ou si vous allez au château, la rue des cambistes, comme on les appelle ici. Depuis des années, les dollars sont partout au Congo. Tout fonctionne avec les deux monnaies, congolaises et américaines, au grand regret de
Madame Manga Gertrude Aziza Cambiste depuis 1983. À l'époque de Mobutu, jamais les boutiquiers ou les magasiniers n'acceptaient jamais les devises. C'est pas normal. Notre France, c'était patrimoine de la République. On doit respecter comme dans d'autres pays. Exemple, ici, en face de chez nous, au Congo-Brazzaville, jamais tu peux aller dans un magasin acheter quelque chose en dollars ou en euros. On achète toujours en francs CFA.
Face à une inflation chronique dans les années 90, Kinshasa a autorisé le recours au billet vert plus stable. Mais depuis, le pays a du mal à en sortir. Dans ce magasin de vente de matériel électrique, en effet, les prix sont affichés en francs congolais, une demande du gouvernement il y a plus d'un an. Mais à l'oral, les prix et les transactions se font toujours en dollars. Le billet vert reste plus pratique à gérer pour ce commerçant.
Les francs congolais, c'est un peu compliqué pour donner à quelqu'un le franc congolais, parce que quand il y a trop de dollars, le franc congolais, bon, ça a des sommes exorbitantes. Quand quelqu'un a 1000 dollars, en francs congolais, ça fait déjà 9 millions de francs congolais, c'est beaucoup. Donc c'est ça le grand problème. 2,5, donc 3250.
Mais pour Mounir, le directeur commercial de l'entreprise, la dédollarisation de l'économie ne fonctionnera pas tant qu'il n'y aura pas plus de francs congolais sur le marché.
Pour l'instant, ça ne peut pas fonctionner. Et pourtant, ils ont sorti des grosses coupures de 20 000, de 5 000, de 10 000. Mais au niveau de la masse monétaire en francs congolais, il n'y en a pas assez sur le marché.
En septembre 2012, le ministre congolais des Finances estimait à 90% les dépôts en dollars américains et à 95% les crédits bancaires libellés en dollars. En septembre dernier, le gouvernement a demandé à ce que les transactions importantes se fassent en francs congolais. Mais pour Michel Lissombé, président de la Fédération des banques congolaises, après 20 ans de dollarisation de l'économie, il est normal que le pays mette plusieurs années pour se déshabituer.
C'est difficile à mettre en œuvre parce que nous sortons quand même de 20 ans de dollarisation. Mais je pense que la Banque centrale a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'elle a décidé de ne pas précipiter les choses, parce qu'elle a bien compris que le problème fondamental était la confiance du public par rapport à la monnaie locale.
L'objectif de la Banque centrale, que la moitié de l'économie congolaise soit dédollarisée d'ici 6 ou 7 ans.
Pierre Schoeffler, le dollar, c'est une drogue ?
Oui, c'est même une drogue dure et c'est même une drogue dangereuse parce que on a vu à deux reprises une disparition de la liquidité dollar en l'espace de quelques jours. La première fois, c'était en 1997 avec la crise asiatique et la crise russe, et une deuxième fois de façon dramatique en septembre 2008 avec la faillite de Lehman. Et on a vu tout d'un coup le monde s'effondrer parce que tout d'un coup la liquidité dollar interbancaire, les banques ne se prêtaient plus en dollars tout simplement à l'extérieur des États-Unis. Et ça a provoqué des réactions de certains pays émergents comme la Chine aujourd'hui, qui veulent vraiment s'affranchir du dollar et développer leur propre zone monétaire, internationaliser leur monnaie de façon à pouvoir négocier avec l'Indonésie, la Corée, enfin tous les pays voisins en yuan et pas en dollars.
Louis Miotti, le projet du gouvernement et de la Banque centrale de République démocratique du Congo de réduire en quelques années leur dépendance au dollar, vous pensez que c'est réaliste, faisable, qu'on peut se dédollariser comme ça?
Écoutez, en principe, je ne suis pas spécifiquement la République du Congo, donc je ne peux pas vous dire sur l'histoire monétaire. Je peux vous donner comme exemple plutôt l'Amérique latine, où la mémoire inflationniste, voire hyperinflationniste, ne s'arrête pas à 6 ans. Ça veut dire que les gens qui détectent, ils ont une manière d'agir face à l'inflation, à l'instabilité et les rétrécissements de l'horizon économique, en cherchant une couverture contre cette incertitude. Et la couverture automatique, c'est le dollar. L'Argentine a été semi-dollarisée, elle a payé avec des crises majuscules, et il continue à être dollarisé 20 ans, 30 ans après. Donc, je ne crois pas trop à cette idée qu'on peut dédollariser une économie en 5-6 ans.
Michel Aglietta, on peut se dédollariser comme ça, sur une simple décision politique?
Les décisions politiques en question sont les conséquences de crise, si vous voulez. Bon, prenons le cas de l'Argentine, justement. Ce qui est assez intéressant en Argentine, c'est qu'il y a eu deux crises complètement différentes. La première, celle de 1991, etc., c'était de l'hyperinflation. Donc l'hyperinflation amène les gens à chercher une réserve de valeur qu'ils reconnaissent, en disant confiance. Et à ce moment-là, il faut réinstituer l'ordre monétaire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire pas des petites réformes. Il faut dire, je construis une nouvelle monnaie, je l'assois sur tel type d'actif pour être certain qu'elle fonctionne, je change les règles monétaires et je repars comme ça. Ça, c'est l'Allemagne, en 1924, par exemple, après son hyperinflation, a changé complètement les règles monétaires, et la confiance est revenue. Mais il faut parier la confiance, c'est pas sûr qu'elle revienne. Et l'autre solution, c'est le contraire, c'est-à-dire, vous dollarisez, ça veut dire quoi? Pour maintenir la stabilité monétaire.
Ce qui s'est passé en République démocratique du Congo.
Ce qui se passe en Argentine la deuxième fois, c'est-à-dire que, et donc, ils se sont dollarisés en 91, la crise suivante, c'est 2001. Et crise pourquoi? C'est que faut pas oublier que quand on se dollarise, on perd complètement le contrôle sur sa politique monétaire. Et par conséquent, on peut être dans la situation opposée de rareté de la monnaie qui crée de la déflation et qui crée un marasme économique très important, des problèmes de balance des paiements, etc. Et l'Argentine a dû subir cette deuxième crise et elle a rétabli d'une certaine manière sa souveraineté monétaire à partir de l'année 2002, par exemple.
Louis Miotti, elle rétablit la souveraineté monétaire en Argentine?
Les problèmes, c'est que c'est compliqué parce que on revient à des formes, c'est-à-dire les gens, les institutions, etc., ils ont une certaine mémoire longue, et donc dès qu'on a abandonné ces patrons qui a permis de liquider les problèmes d'hyperinflation, on revient à des mouvements inflationnistes et donc à des vieilles conduites, et donc il y a une redollarisation de l'Argentine.
Alors c'est la fin de la première partie de cet écho d'ici écho d'ailleurs consacré au dollar, à son rôle central dans l'économie mondiale. Nous nous retrouvons dans quelques instants après un flash d'actualité.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI. Écho d'ici, écho d'ailleurs, Jean-Pierre Bouris.
Deuxième partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons du dollar, du roi dollar, de son rôle central dans l'économie mondiale. Trois invités dans ce studio pour nous éclairer. Michel Aglietta, conseiller scientifique au CEPI, auteur avec Virginie Couder du livre Le dollar et le système monétaire international aux éditions La Découverte. Louis Miotti, professeur d'économie à l'Université Paris 13 et le financier Pierre Schoeffler. Dans la première partie de cette émission, nous avons vu à quel point le dollar jouait un rôle dominant dans l'économie mondiale. 60% quasiment de la circulation, nous a dit, la circulation monétaire, nous a dit Michel Aglietta. Nous avons parlé de la République démocratique du Congo et de l'Amérique latine, parce que l'Amérique latine est dans l'orbite du dollar, c'est la zone dollar. Nous disiez-vous tout à l'heure, Louis Miotti, à quel point est-ce une zone dollar, l'Amérique latine?
Bah, disons que la preuve, c'est que lorsqu'on est incapable de gérer la confiance dans la propre monnaie, l'option, c'est rapidement se dollariser. Hein. Donc, il y a des exemples, l'Équateur, par exemple.
Oui, j'allais y venir.
Le Panama. Il y a des petits pays où, officiellement, et unilatéralement, parce que c'est pas un accord monétaire avec les États-Unis, ils ont pris comme monnaie les dollars directement.
C'est-à-dire que le dollar est la seule monnaie du pays?
Oui.
Il n'y a plus de monnaie nationale, il n'y a plus de peso équatorien, par exemple,
non.
Ou de peso panaméen.
Je connais bien, parce que j'ai travaillé pendant un an comme conseiller de la Banque Centrale en Équateur, et ce qui était intéressant, c'est qu'ils aimaient des petites monnaies.
Des pièces,
oui, parce que les coûts de transport des pièces de dollar, c'est c'est très cher, et parce que ça pèse lourd les petites pièces. Et donc ils aimaient, la Banque Centrale aimait, mais ils n'aimaient rien sur la monnaie pour ne pas dire que ce n'est pas du dollar. Et donc c'est un dollar, un faux dollar, si vous voulez. À Panama aussi, ça existe, les balboas aussi. C'est une petite monnaie que c'est, contrairement à l'Équateur, ça sert pour acheter du pain, acheter les journaux, etc. C'est une petite monnaie, mais 99% des transactions se font en dollars.
Est-ce que ça veut dire que ces pays-là deviennent des provinces des États américains?
Non, ça révèle plutôt qu'historiquement, à un moment donné, ont été incapables de gérer leur propre monnaie, et que du point de vue politique, ils ont décidé de ne pas essayer de mettre en place une nouvelle monnaie avec de la confiance, et ils ont renoncé à ces droits du prince d'émettre de la monnaie et de dire bon, on va accepter la monnaie que tout le monde accepte. Mais en même temps, si vous abandonnez une partie de votre souveraineté, parce que, comme disait Michel tout à l'heure, les problèmes...
Michel Aglietta, pardon.
Les États-Unis, lorsqu'ils vont prendre, ils vont mettre en place leur politique monétaire, ils regardent pas si ça c'est bon pour l'Équateur. Ils regardent si c'est bon pour les États-Unis. Et donc, les cycles équatoriens peuvent ne pas rien avoir avec ce qui se passe aux États-Unis. Et donc, ils peuvent subir une instabilité simplement parce que il y a un conflit d'objectifs. Mais comme on a abandonné, du point de vue équatorien, on a abandonné la monnaie nationale, on est soumis au droit du prince américain.
Droit du prince américain, Michel Aglietta, abandon de souveraineté de ces pays?
Oui, mais à partir du moment où on ne peut plus émettre de manière souveraine par sa propre banque centrale, sa propre monnaie, comment peut-on obtenir les dollars? Il faut les obtenir par les transactions internationales. Donc ça force le pays notamment à avoir un excédent de la balance des paiements pour pouvoir accumuler des dollars dans le pays et ensuite pouvoir les utiliser dans les transactions intérieures. Ce qui veut dire que ça crée des contraintes très très fortes sur la politique économique.
Lesquelles?
Ben, c'est celle-là, c'est-à-dire vous pouvez pas être en déficit. Donc supposez que vous ayez besoin de faire des investissements importants. Vous avez besoin transitoirement d'être en déficit pour émettre de la dette pour faire un investissement. Puis dans plusieurs années, les investissements rapporteront, vous rembourserez votre dette. Fonctionnement normal. Et ben là, vous pouvez pas le faire de la même manière. Donc vous êtes contraint à une économie dont la croissance peut être trop faible par rapport à ce qu'elle pourrait être si elle avait un système de monnaie monnaie qui lui était intérieure.
Pierre Schoeffler, pour le financier que vous êtes, c'est une aberration de voir un pays comme l'Équateur ou comme le Panama abandonner sa monnaie ?
Non, si, c'est une aberration, bien sûr, mais j'ai tendance à faire un peu le parallèle avec la zone euro, parce qu'on parle beaucoup là de la zone dollar. Après tout, on parle pas...
C'est un peu le sujet de l'émission.
Oui, bien sûr, mais il y a quand même des choses à tirer de cet enseignement-là. On parle pas d'un dollar californien et d'un dollar texan. Aujourd'hui, on a tendance à parler d'un euro français et d'un euro allemand. Donc... Dans cette affaire de la zone dollar, il y a certainement effectivement la puissance des États-Unis, puissance politique et monétaire, mais il est quand même intéressant de voir que 40% quand même des réserves de change aujourd'hui sont détenues quand même par la Chine. Je reviens à ça, c'est-à-dire que quelque part la Chine, avec sa politique extrêmement mercantiliste, a réussi à accumuler une part de réserve qui lui permet aujourd'hui de construire une indépendance de sa propre monnaie. Le monde est en train de changer.
On en parlera tout à l'heure, mais restons en Amérique latine parce que son économie est très liée à celle des États-Unis, auquel il vend l'essentiel de son pétrole. Le Venezuela pourrait être un de ces pays qui reconnaît le dollar comme monnaie officielle. C'est tout le contraire qui se passe. Le gouvernement cherche de toutes ses forces à empêcher ce phénomène. Et c'est difficile. À Caracas, le bolivar, la devise officielle est très fragile. Il y a eu 3 dévaluations depuis 2003. Aujourd'hui, officiellement, le dollar vaut 6 bolivars 30. Mais au marché noir, il a dépassé depuis quelques semaines la barre des 100 bolivars, ce qui complique beaucoup la vie des Vénézuéliens qui n'acceptent souvent d'en parler que sous couvert d'anonymat. C'est un reportage à Caracas de Julien Gonzalez.
Dans cette rue à quelques encablures du palais présidentiel, il ne se cache pas vraiment. Des Vénézuéliens qui vendent ou achètent de l'or, mais qui aussi et surtout échangent des dollars. Une activité illégale qui rapporte beaucoup. Le billet vert s'échange jusqu'à 15 fois sa valeur officielle en ce moment. Une demande qui explose 40 ans de crise. Le dollar est plus que jamais la valeur refuge.
Notre monnaie ne vaut rien. Alors de temps en temps, j'achète des dollars par sécurité pour moi et ma famille. Nous n'avons pas de liberté économique ici à cause du contrôle d'échange. Comment faire autrement que d'acheter des dollars au marché parallèle? Dans aucun pays du monde, le marché noir est légal. Ces économies en dollars servent à affronter l'inflation dans ce pays. Si tu achètes des dollars, tu ne spécules pas contre le bolivar. Tu ne fais que te défendre.
Et quand il s'agit de voyager, le dollar devient alors la seule devise de référence pour les Vénézuéliens. Légalement, le système d'administration et de conversion des devises, CADIVI, est très avantageux, comme l'explique cette jeune femme, ne souhaitant pas révéler son identité, mais il contient beaucoup de restrictions.
On peut croire que ce système est bon, car il te permet d'acheter des dollars à un taux très préférentiel. Mais c'est difficile d'obtenir ces devises. Le plafond autorisé est insuffisant et il y a des délais stricts établis par la loi. Ce système ne fonctionne pas. Quand j'ai commencé à travailler, je changeais en dollars la moitié de mon salaire et je le transférais sur un compte aux États-Unis. Je suis allée en Espagne cette année pour étudier et je n'ai pas eu droit au dollar du CADIVI. C'est grâce à ce compte que j'ai réussi à vivre, car c'était mon seul moyen d'avoir des devises.
Effet pervers de la rareté du dollar au Venezuela, ces devises accordées pour voyager à l'étranger entretiennent un véritable commerce illégal. Pour beaucoup de Vénézuéliens, tous les moyens sont bons pour faire du profit. C'est en tout cas ce que confie cet homme sous couvert d'anonymat, de retour lui aussi de Madrid.
Les gens qui voyagent cherchent à en tirer un bénéfice maximum. À l'étranger, ils réduisent leurs dépenses et ils troquent dans un casino, par exemple, leur capacité de retrait en carte bleue contre des dollars en cash pour les revendre au noir au Venezuela. Si je n'avais pas tout dépensé lors de mon voyage, je l'aurais fait, car c'est un business très facile. Ce système te paye ton billet d'avion, te permet de profiter de ton voyage et même de gagner de l'argent ici.
Si beaucoup de Vénézuéliens disent vivre de fait dans une économie dollarisée, pas question pour autant que le dollar devienne monnaie officielle. Et cela, malgré la manne pétrolière dont le pays dispose. Il y a 3 mois, en effet, le président Nicolas Maduro a écarté toute possibilité d'éliminer le contrôle des changes.
Alors cette importation clandestine de dollars, Michel Aglietta, vous voyez sourire en écoutant ce reportage de Julien Gonzalez à Caracas ?
Non, mais on voit bien que ça crée des distorsions de prix fantastiques et donc permet à des intermédiaires de réaliser des profits gigantesques. Hein. Cette possibilité d'avoir un double marché de change, l'un officiel, donc ceux qui ont accès au marché officiel et qui ensuite peuvent faire les transactions sur l'autre, les revendre sur l'autre, font des profits absolument incroyables, qui sont des rentes pures, qui sont des profits démographique qui est anti-économique, si vous voulez, et qui ont des effets dévastateurs sur la cohésion sociale dans un pays. Quoi. C'est ça les conséquences.
Ça ne marche pas, le contrôle d'échange, par principe.
Par contrôle d'échange, c'est très difficile que ça marche vraiment bien si un pays est faible économiquement. Ce qui se passe au Venezuela, c'est que c'est un pays de rente pétrolière. Le prix du pétrole s'est effondré, a perdu 30% même récemment. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour un pays monoproduit, qui pour l'essentiel ne dépend que du pétrole.
Luis Miotti, c'est dangereux cette situation que décrit Julien González?
Il faut comprendre aussi que le Venezuela, il est dans une crise. Je disais, ça fait 4 ou 5 ans que les crises vont revenir au sud. Et la plupart de ces crises-là, ils vont prendre la forme des crises de change. Pourquoi? Parce que on voit que les prix de matières premières chutent. Et donc, tout à coup, les entrées de dollars diminuent énormément pour ces pays. N'oublions pas que presque la totalité des matières premières sont libellées en dollars. Et donc, cette manque oblige à prendre un certain nombre de décisions au gouvernement qui engendrent l'apparition des marchés doubles, triples, etc. Donc le problème, c'est que ces multiples marchés qui engendrent des rentes spéculatives, des rentes même non productives, engendrent aussi l'idée que on connaît pas l'équilibre de la monnaie. On ne connaît pas les taux de change véritables.
La valeur réelle.
Et donc, il y a une tendance à surenchérir sur... Donc, il y a ce qu'on appelle une espèce d'overshooting sur la valeur du dollar.
La spéculation.
Oui, ça veut dire qu'on a l'idée que les dollars vaut plus que ce qu'il vaut vraiment, en fait. Et donc, ça crée des cercles vicieux dans l'économie parce qu'on suppose que ça va valoir encore plus. Donc, j'essaye de... thésauriser encore plus et ça va valoir encore plus parce que thésaurise, etc.
Donc, impressionnant, Pierre Scheffler, cette dynamique perverse.
C'est une mécanique de marché sur un marché qui est mal organisé, donc tout ça n'est que de la logique. Il faut que le marché fonctionne de façon plus correcte. J'ai une petite expérience, moi, au début des années 80, en France, on avait une devise-titre, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour acheter des actifs financiers à l'extérieur de la France, il fallait acheter un franc financier, il fallait acheter un dollar titre. Et il y avait un marché du dollar titre, donc si vous achetiez des bons du trésor américain, vous achetiez un cours différent de si vous achetiez des marchandises en dollars. Et il y avait ces deux marchés-là, la devise titre financière et la devise commerciale. Et entre ces deux marchés, il y avait des arbitrages qui se faisaient. Et évidemment, ça profitait toujours aux personnes qui sont... Voilà, à certains types de personnes.
C'est-à-dire, soyez plus précis.
Des personnes qui pouvaient, d'une certaine façon, acheter sur un des marchés et revendre sur l'autre. La devise titre avait des primes qui dépassaient parfois 30 à 40% sur la devise commerciale. Et ça, c'était la France dans les années 80. Il y avait donc des arbitrages où on pouvait gagner sans aucun risque, je tiens à le souligner, sans aucun risque, peut-être un risque juridique, mais 30% sur une transaction entre la devise titre et la devise commerciale.
Vous écoutez Écho d'ici, Écho d'ailleurs, sur RFI, nous parlons du dollar, de l'empire du dollar. Trois invités dans ce studio, les économistes Luis Miotti et Michel Aglietta et le financier Pierre Scheffler. On a vu que le dollar jouait un rôle prépondérant dans l'économie mondiale, que des pays comme la RDC en Afrique ou l'Équateur en Amérique latine en faisait une monnaie officielle. Pourtant, il y a eu la crise de 2008, pour ne parler que de celle-là. Ce rôle prépondérant du dollar, est-ce qu'il n'a pas été un peu ébranlé par la crise de 2008, Michel Aglietta?
Alors, paradoxalement, non. La crise de 2008 était une crise du système financier intérieur. C'est une crise d'origine immobilière. Et derrière elle, le fait que l'immobilier était financé par dette a entraîné une crise bancaire. Mais quand vous êtes dans une situation de stress... telle qu'a été l'économie mondiale, et notamment en ceux qui sont les financiers, les épargnants. Dans une situation de stress, on cherche justement le refuge. Et à ce moment-là, on cherche la liquidité. On est dans une période où on ne veut plus dépenser, plus investir. C'est ce qui est passé. Et le refuge était là, c'était le dollar. C'est-à-dire, il a été renforcé par cette situation. En même temps que vous avez eu une très grande baisse des prix des actions, un effondrement de l'immobilier, la liquidité en dollars restait très forte, le cours de change a monté, Hein, le dollar a monté. Et par rapport au problème quand on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire l'assèchement de crédits interbancaires, c'est là les banques centrales sont arrivées, elles ont remplacé les banques. Et par conséquent, la Fed a joué le rôle, la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale des États-Unis, hein, a joué le rôle central dans l'alimentation de ce qu'il fallait de liquidité au niveau international pour éviter un effondrement financier.
Pierre Scheffler, le dollar est toujours aussi fort aujourd'hui qu'il l'était en 2006-2007?
Oui, il est de plus en plus fort en ce moment. La tectonique des plaques monétaires indique que le Japon est rentré dans une politique mercantiliste à extrême, de faiblesse du yen. La zone euro ne peut que suivre parce que quelque part l'Allemagne est le principal concurrent du Japon sur le marché des biens d'équipement. La montée du dollar est irrésistible en ce moment.
Mais pourtant la crise de 2008, elle a été provoquée par la mauvaise gestion financière des autorités américaines, par l'absence de contrôle de ces autorités sur les institutions financières américaines. Les États-Unis, la Fed, ils n'ont pas des responsabilités vis-à-vis du reste du monde, Michel Aglietta?
Ben voilà, ils en ont pris dans la période de la crise, comme je l'ai dit. Le réseau des banques centrales a été organisé par la Fed parce que les besoins de dollars étaient très importants. Les banques centrales ont joué le rôle qu'on appelle prêteur en dernier ressort. C'est-à-dire quand plus personne veut se faire crédit, la banque centrale est là pour continuer à le faire et éviter que toute l'économie s'effondre, que les transactions minimales puissent continuer. Donc, de ce point de vue-là, ils ont joué ce rôle. Mais ils ne le font que dans les périodes de crise extrême. En réalité, ils ne le font que s'ils craignent que les perturbations qui se produisent dans le monde fassent retour sur leur économie.
Exact.
Et si ça ne le fait pas, ça ne leur pose pas problème.
Alors, dans le commerce mondial, la position centrale du dollar impose des obligations aux entreprises qui ont recours au billet vert. C'est encore plus le cas depuis l'affaire de la BNP Paribas. Rappelons qu'en juin dernier, cette grande banque française a été obligée de payer une amende de près de 9 milliards de dollars pour avoir utilisé la monnaie américaine dans ses transactions avec des pays frappés par un embargo américain, Soudan, Cuba et Iran. Cela a des conséquences importantes aujourd'hui pour tous les utilisateurs du billet vert, comme en témoigne Armand Ezerzer, négociant en coton et en engrais et président de la société Mambo Commodities.
On peut considérer aujourd'hui que à peu près 100% des échanges dans les matières premières que je traite sont en dollars.
Est-ce que c'est une facilité qu'il y ait ce repère unique ou est-ce que c'est handicapant?
Je dirais que ça peut être une très grande facilité puisque on traite, tous les échanges sont traités dans une seule devise, donc on ne pense que dans une seule devise et on doit faire la conversion que vers cette devise, que ce soit à l'achat ou à la vente. Mais d'un autre côté, ça peut revêtir depuis quelque temps une grande complexité parce qu'il faut avoir accès au dollar et il faut savoir depuis qu'il y a eu l'affaire BNP où on s'est rendu compte que par l'importance que la devise revêtait dans les échanges, il y a une forme de supranationalité qui s'est instaurée et qui fait que le passage par le dollar veut dire pratiquement aujourd'hui qu'on est sous une domination américaine. Ça rend les échanges extrêmement complexes parce qu'à ce moment-là, on est obligé de se tourner vers l'éthique américaine pour être bien certain que l'éthique américaine accepte qu'on utilise le dollar pour traiter avec tel ou tel pays ou tel type de transaction.
Est-ce que ça veut dire que le dollar véhicule est autre chose aujourd'hui, le billet vert est autre chose que de l'argent?
Aujourd'hui, le billet vert est définitivement quelque chose d'autre que de l'argent. C'est une forme de droit supranational. Si la jurisprudence, entre guillemets, BNP Paribas devait s'instaurer, devait être confirmée, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va se passer quand on traite en dollars. Donc, depuis que c'est l'amende record qui a été infligée et a été mise sur la place publique, toutes les banques de la place demandent à savoir qu'est-ce qui se passe. Vous traitez en dollars, qu'est-ce que c'est que cette opération? Qui vous payez? Comment vous payez? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas un embargo sur tel pays? Est-ce que les échanges ne sont pas réglementés par les États-Unis sur tel pays? Et donc aujourd'hui, avant toute opération, on a tout un processus de compliance, d'éthique qu'on est, obligé d'aller voir si les contreparties, si le pays, si le port, si la contrepartie physique avec laquelle on va traiter, on est en mesure de traiter avec elle au regard des réglementations qui ont été dictées aux États-Unis.
Pierre Scheffler, c'est pas ça de nouveau un privilège exorbitant?
Bien sûr, l'Alex Americana, oui, mais c'est certain, ça va de pair, ça explique d'ailleurs en grande partie la réaction chinoise dont on parlait tout à l'heure. C'est pas uniquement pour des raisons d'ordre de puissance commerciale locale que la Chine veut organiser sa propre zone monétaire en Asie du Sud-Est, c'est également pour s'affranchir de cette réglementation américaine, oui.
Quels avantages, Michel Glietta, tirent les États-Unis de cette puissance monétaire?
Alors, le premier avantage, c'est que leurs taux d'intérêt sont plus bas que les autres. C'est-à-dire, si vous êtes le pays le plus liquide, la liquidité est un avantage. C'est-à-dire que quand vous traitez avec un moyen d'échange moins liquide, vous payez ce qu'on appelle une prime de liquidité. Le pays, par conséquent, qui émet la monnaie que tout le monde veut, désir, est un pays qui est à la base de tous les taux d'intérêt. Donc, le premier élément, il est plus bas. Donc, un taux d'intérêt plus bas, ça veut dire toute la structure des taux d'intérêt sont plus bas aux États-Unis qu'ailleurs, dans des conditions normales.
Donc, ça veut dire qu'il est moins cher d'emprunter de l'argent aux États-Unis.
Absolument.
Moins cher pour faire des affaires.
Absolument. Le deuxième élément, c'est que, normalement, si vous voulez, il y a moins d'instabilité non plus. C'est-à-dire que les chocs que subissent les phénomènes de change des autres pays, dans les autres pays, la variation du taux de change a un effet sur leur taux d'intérêt intérieur. Si une monnaie se déprécie, son taux d'intérêt augmente par rapport à ce qu'il est aux États-Unis. Comme les États-Unis sont le pivot, le centre, comme on le disait tout à l'heure, leur taux d'intérêt est indépendant des difficultés qui se passent dans le monde. Deuxième gros avantage.
Pierre Scheffler.
Oui, bien évidemment, et c'est là la clé du le dollar et le fondement du commerce international et quelque part de la croissance économique mondiale. Et c'est bien pour ça qu'il faut que le prix du dollar, à la fois vis-à-vis des autres devises et le taux d'intérêt du dollar, ne soit pas manipulé. Or, il est profondément manipulé depuis plusieurs années.
Alors, beaucoup ont espéré que l'euro pourrait contrebalancer l'impact du dollar. En 1996, le député centriste Bernard Besson disait son optimisme au micro de Geneviève Kötzinger de RFI dans la perspective de la création de l'euro.
Aujourd'hui, nous subissons la seule monnaie mondiale, qui est le dollar, et la loi de l'Amérique. C'est le seul peuple qui a une monnaie qui est un instrument et non pas un thermomètre. Seul l'euro sera le concurrent du dollar, nous mettra à égalité avec les États-Unis d'Amérique, fera de nous des partenaires loyaux des États-Unis et plus jamais des vassaux.
Alors, il était un peu optimiste, Bernard Besson, Louis Miotti.
Je pense que oui, parce que en fait, ça suffit pas de créer une deuxième monnaie et que cette monnaie soit assise sur une zone géographique riche, etc. Ce qu'on n'a pas créé, c'est des formes de coordination internationale pour la
coexistence.
Non seulement intra-européenne, sinon les rapports entre qui gèrent les rapports entre les grandes monnaies du monde. En fait, si on a un pays qui gère les dollars en fonction de ses questions internes. Et je rappelle simplement que les États-Unis, comme disait Michel Aglietta, ils vont agir sur l'économie mondiale lorsqu'ils supposent ou ils font l'hypothèse que la crise va faire retour sur eux, mais aussi ils peuvent la créer parce que à mon avis, laisser tomber les mains brodeurs, c'est une erreur grave de la Fed, mais passons. En tout cas, justement, comme il n'y a pas ce type de coordination, les États-Unis gèrent la monnaie internationale en fonction des questions internes. L'euro ne peut pas contrebalancer ça et il n'y a pas des accords internationaux pour gérer ces multimonnaies internationales. Et donc, pour l'instant, la tendance, ça va être, ça continue à être que les dollars commandent. Et la Banque Centrale Européenne essaye d'ajuster.
Pierre Scheffler, le yuan, la monnaie chinoise, ne peut pas prendre le relais?
Sans doute plus facilement que l'euro, en tout cas. L'euro a l'air d'être mal parti pour prendre un relais quelconque, parce que tant qu'il y a un tel désordre à l'intérieur de cette zone monétaire, le yuan, au moins, il y a une union politique derrière le yuan. Après, la Chine peut connaître des soubresauts, mais Il est certain néanmoins que c'est quand même impressionnant. Le commerce extérieur de la Chine est libellé aujourd'hui. Les exportations sont libellées à 30% en yuan. Elle était à 0% il y a 5 ans. Donc il y a des choses qui se passent et qui se passent très très vite.
Michel Aglietta, vous revenez de Chine, vous y étiez il y a 2 jours. Vous voyez le yuan prendre la place des États-Unis, du dollar comme monnaie de réserve à court terme, à moyen terme?
En tout cas, devenir une monnaie concurrente, mais je suis pas sûr que l'avenir du monde va être de la même manière, quoi. C'est ça. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir des zones d'influence, puis avec des pays qui sont des pays de très grande puissance dans différentes zones. Normalement, si l'Europe arrive à s'unifier, l'euro c'est un espace qui sera plus large que l'Europe, il aura une influence sur beaucoup plus de régions. En Asie, il est certain que la Chine a une stratégie de devenir le pôle de toute une région qui sera la plus grande du monde en taille et aussi en capacité de croissance. Donc ça c'est une stratégie délibérée des Chinois et ils la poursuivent et à mon avis, probablement c'est autour de 2020 qu'on aura une monnaie convertible complètement en Chine et par conséquent un détachement vis-à-vis de l'espace du dollar.
Alors je vous réinviterai Michel Aglietta en 2020 pour voir si vraiment ça s'est produit, ainsi que vous Louis Miotti et vous Pierre Schoeffler. Merci à vous trois d'avoir participé à cette émission qui est maintenant terminée. Elle a été réalisée par Jérémy Besset. Vous pouvez nous réécouter sur le site internet de RFI, www.rfi.fr, ou nous podcaster. Je vous dis à la semaine prochaine pour un grand invité de l'économie.
Écho d'ici, écho d'ailleurs sur RFI.